Bonsoir, chers amis. Nous avons vu donc dans le premier cours du master consacré à Saivar Paramas, nous avons vu un espèce de panorama général qui englobait la vie du saint en premier lieu, et nous avons vu aussi que cette vie était extrêmement varié en quelque sorte. Si fondamentalement Saint Grégoire Palamas est un ascète, il a dû aussi intervenir à plusieurs reprises sur le plan théologique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais reculé devant ses responsabilités, et il a aussi assumé des responsabilités ecclésiales très importantes, puisqu'il était archevêque métropolite de Thessalonique. Et donc, son œuvre est immense. Elle couvre aussi bien des textes de spiritualité, des textes théologiques, des textes polémiques, des homélies qu'il a adressées à ses fidèles. Et on connaît bien maintenant ces textes, puisqu'ils ont été publiés, mais il reste encore, je crois, un travail à faire qui consiste à montrer comment sa pensée s'est structurée, a évolué en fonction de ses diverses activités. Nous avons vu aussi que, de façon surprenante, un patrologue latin, tout d'un coup, a qualifié distinction essence-énergie comme étant une invention de Saint Grégoire Palamas. Alors, je voudrais revenir un petit peu là-dessus et essayer de comprendre pourquoi. Première chose que l'on peut dire, c'est que la théologie latine, officielle, parce que tout le monde ne la partage pas non plus, telle qu'elle est, disons, formulée par un grand théologien de l'Église latine comme saint Thomas d'Aquin, envisage Dieu comme une essence close, fermée sur elle-même. C'est un acte pur, c'est-à-dire qu'il prend la définition qui vient de la philosophie d'Aristote et il la transpose dans le domaine religieux. La démarche orthodoxe est complètement différente. Parce que la démarche orthodoxe ne part pas de la philosophie, mais elle part de la révélation. Et la première chose à dire, c'est que cette révélation, c'est d'abord le texte biblique, et c'est la révélation d'un Dieu personnel dans une histoire, ce qui est celle de l'homme. Donc c'est une démarche qui, vous voyez, est dès le départ, différente. Deuxième chose qui me semble importante à dire, c'est que ce déni qu'on trouve dans le dictionnaire théologique catholique est surprenant. Mais en fait, le fait de nier cette distinction entre l'essence et les énergies revient, en quelque sorte, à couper Dieu du monde. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est, du point de vue latin, tout ce qui est extérieur à l'essence divine est créé. Donc, la grâce est créée. Et même les manifestations de Dieu, telles qu'elles sont décrites dans la Bible, ne sont pas des manifestations de Dieu lui-même, mais des intermédiaires créés qui se manifestent dans le monde. Donc, les pères n'ont jamais eu cette conception. Jamais. Et on peut dire que cette distinction entre les sens et les énergies divines implique, si vous voulez, que l'homme, dans la création, a une possibilité qui lui est offerte d'avoir une relation personnelle avec Dieu en tant que tel. Et la question de la distinction de l'essence et des énergies divines, l'énergie divine, c'est-à-dire tout ce qui se manifeste dans la création, tout ce que l'homme peut connaître de Dieu, cette question implique la plupart des questions de dogme et de spiritualité sur lesquelles l'Occident et l'Orient chrétien s'opposent depuis longtemps. Par exemple, la question du filioque. C'est seulement selon l'énergie, la manifestation, que l'on peut considérer que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, ou même du Père et du Fils. La question de la nature et de la grâce du côté latin est créée et du côté orthodoxe est incréée. La question de la connaissance de Dieu, Dieu pour les pères est inconnaissable dans son essence, et nous allons y revenir assez longuement, mais connaissable dans ses énergies, c'est-à-dire dans ses manifestations, dans ce que l'on peut connaître de lui. La question de la divinisation de l'homme. Par quoi l'homme est-il divinisé, si ce n'est par l'énergie divine ? Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ces paroles puissantes que nous trouvons pour la première fois chez saint Irénée reviennent sous la plume de saint Athanase, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Grégoire de Nice. Les pères et les théologiens orthodoxes les répéteront de siècle en siècle avec la même insistance, voulant exprimer dans cette phrase lapidaire l'essence même du christianisme. Je reprends là un petit article de Lison, et le passage d'un article de Lison sur la divinisation. Les pères et les théologiens orthodoxes les répéteront de siècle en siècle. Et l'essence même du christianisme, c'est, consiste effectivement en une descente ineffable de Dieu jusqu'aux limites de notre déchéance humaine, jusqu'à la mort. Descente de Dieu qui ouvre aux hommes une voie d'ascension, les horizons illimités de l'unité des êtres créé avec la divinité. La voie descendante, cette catavasis, de la personne divine du Christ, rend possible aux personnes humaines une voie ascendante, anavasis, dans l'Esprit Saint. Il a fallu que l'humiliation volontaire, la kénose rédemptrice du Fils de Dieu, ait lieu afin que les hommes déchus puissent accomplir leur vocation, celle de la déification, ou théosis, de l'être créé par la grâce incréée. Ainsi, l'œuvre rédemptrice du Christ, ou plutôt de manière plus générale, l'incarnation du Verbe, semble mise en rapport direct avec la fin dernière proposée aux créatures, à savoir l'union avec Dieu. Si cette union est réalisée dans la personne divine du Fils, Dieu devenu homme, il faut qu'elle soit réalisée dans chaque personne humaine. Il faut que chacun de nous, à son tour, devienne Dieu par grâce. Dieu avec un petit D. C'est-à-dire non pas Dieu par essence, mais Dieu par grâce, selon l'énergie divine. Ou, comme dirait saint Pierre, dans une de ses lettres, c'est la deuxième lettre, deuxième épître de Pierre, donc vous voyez que ce n'est pas récent, participant de la nature divine. En ce sens, la divinisation est au sommet de la théologie orthodoxe et la tradition vénère en Saint Grégoire Palamas le théologien qui a sauvé la tradition et donc l'idéal de la divinisation de la menace humaniste, rationaliste et latine. Les auteurs orthodoxes ont de plus en plus tendance à distinguer trois grands cycles ou périodes dans l'histoire de la tradition. La période pré-chrétienne du Père, la période christologique jusque vers le IXe siècle et la période pneumatologique jusqu'à nos jours. Celle-ci se caractérise par l'intériorisation grâce à l'action de l'Esprit-Saint des vérités que les grands débats christologiques de la période précédente avaient fixées. Les énergies divines sont attachées à l'Esprit en tant qu'il en est le donateur, mais elles sont distinctes de sa personne et elles sont distinctes de sa nature. C'est par l'énergie ou les énergies divines que s'effectue l'homme la sanctification comme la déification. Ce dernier argument, mais d'autres aussi, comme le fait que les énergies divines restent toujours dépendantes de l'essence divine et ne changent pas de nature en étant présentes dans la création ou en étant communiquées aux créatures, font que les pères considèrent l'énergie ou les énergies divines comme incréées, ce qui s'applique aussi à la grâce en tant qu'énergie communiquée et donnée. Dans cette synthèse, cette perspective synthétique de Grégoire Palamas, celui-ci est reconnu comme le point culminant de l'ère pneumatologique dont l'Église est la garante. En raison de son importance, nous allons examiner en détail, plus en détail en tout cas, la question des énergies divines, en nous appuyant sur un livre, celui de Jean-Claude Larcher, qui s'appelle « La théologie des énergies divines », donc qui est publié aux éditions du CERF, dans la collection « Cogitatio Fidei », mais qui est désormais donc traduit en roumain et publié par les éditions patriarcales. Père, si vous voulez bien signaler tout ça.
Oui, le livre est apparu à la fin de l'année 2016, donc aux éditions Basilica du Patriarcat roumain, sous le titre en roumain « Theologia Energiei lor Dumnezeiești », et a été traduit par Marinella Bogin du français en roumain, et puis il a été déjà présenté sur la chaîne Trinitas TV et sur Basilica, qui est l'agence de nouvelles du patriarcat roumain, et sur beaucoup d'autres chaînes. Donc le livre, il est déjà bien connu.
Merci, Père. Donc, on voit que cette question donc, devient vraiment centrale. Le livre de Jean-Claude Larcher devient incontournable. Il y en a un autre aussi, de Bradshaw, Aristotle East and West, qui aborde la question sous un point de vue légèrement différent, mais tout aussi intéressant. Personnellement, aujourd'hui, je vais appuyer surtout sur le livre de Jean-Claude Larcher. Donc, la différence, nous avons dit, c'est que en Occident, eh bien, beaucoup de théologiens, pas tous, il ne faut pas oublier non plus, il ne faut pas généraliser de façon abusive, se sont appuyés sur la doctrine thomiste. Et la doctrine thomiste se fonde sur la philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie divine, ou plutôt il y a identification entre l'énergie divine et l'essence de Dieu. Dieu est un acte pur et il n'y a pas de distinction réelle de l'essence et de l'énergie en Dieu. Alors, d'où vient, disons, cette conception ? Eh bien, ça vient d'Aristote. Ça vient d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que la puissance et qu'est-ce que c'est que l'énergie ? n'est pas compliqué à comprendre. Je suis en puissance capable d'apprendre le roumain. Et si j'apprends le roumain, je le suis en énergie. Voilà, c'est tout. C'est un passage à l'acte, en quelque sorte, d'une chose qui est déjà en puissance, présente, dans l'essence, dans mon essence personnelle. Voilà, que je fais. C'est ça, l'énergie. Du point de vue aristotélicien, et on va voir aussi que le point de vue des pères n'est pas tout à fait le même. Effectivement, nous ne sommes plus dans un contexte philosophique, mais nous sommes dans un contexte religieux. Les pères ont étroitement lié cette question avec les questions comme celle de la connaissance de Dieu. Peut-on connaître Dieu? Qu'est-ce que l'on peut connaître de Dieu? Voilà, on peut le connaître à travers ses énergies divines, mais on ne peut pas connaître son essence. Bon. Les noms divins, Dieu est bon, miséricordieux, etc. Ces noms divins révèlent des qualités de Dieu et nous donnent donc une connaissance de Dieu. Mais cette connaissance, ces noms divins, sont aussi considérés comme des énergies. C'est-à-dire, ne donne pas une connaissance de l'essence de Dieu, mais de ce qu'il est dans ce que l'on peut connaître, nous, de sa personne. La gloire de Dieu, la lumière divine, sont aussi des manifestations de l'énergie, de la même manière que la grâce ou la déification de la personne. Je passe, si vous voulez, sur les détails, parce que vous avez compris la notion vue par Aristote, quelque chose qui est en puissance et quelque chose qui est réalisé. Bon, ça c'est la vision philosophique principale d'Aristote. Donc, la puissance, si vous voulez, est aussi une aptitude ou une capacité qui va être un principe de mouvement ou de changement qui va conduire vers l'énergie et la réalisation de l'action de la personne. L'acte, si vous voulez, est le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous disons qu'elle est en puissance. Par exemple, toujours du point de vue aristotélicien, la statue, elle est en puissance dans le bloc de marbre ou dans le bois. Ce qui est véritablement action rend puissant ce qui est puissant. C'est parce qu'il peut s'actualiser que ce qui est puissant est puissant. Voilà. Tout ce qui advient s'achemine vers un principe, c'est-à-dire une fin. Or l'acte, l'action, est une fin en vue de l'acte, et c'est en vue de l'acte que la puissance est conçue. Donc on a une certaine distinction chez Aristote entre l'énergie, la puissance et l'essence. L'essence divine est stable. La puissance, c'est ce qui en elle ému par l'énergie. Et du point de vue aristotélicien, Dieu est un être en acte. Parce que, et Dieu, si vous voulez, en énergie. Pourquoi ? Parce que du point de vue des êtres divins, tout ce qui est en acte est antérieur à ce qui est en puissance. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qui est pour l'être humain. Dieu est d'abord en acte du point de vue aristotélicien et du point de vue de la théologie latine. Mais en même temps, cette activité reste intérieure pour Aristote à l'essence divine, donc qui reste d'une certaine façon immobile. C'est la théorie du premier moteur immobile, si vous voulez. Si l'essence en Dieu est un principe premier, c'est qu'elle est un acte, et que l'acte est toujours antérieur à la puissance. Donc, du point de vue aristotélicien, Dieu est en acte, mais dans son essence close et immobile. Voilà. Et c'est ce que les théologiens latins vont appeler actus purus, acte pur. Je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités aristotéliciennes parce que Aristote développe beaucoup cette notion. C'est intéressant de voir, par exemple, comment cette notion va être reprise par les successeurs d'Aristote. Je pense, par exemple, à Plotin. Donc, Plotin, nous sommes au IIIe siècle, 205-270. Et Plotin va distinguer, et ça c'est intéressant, deux aspects de l'énergie. Il va distinguer une énergie de l'essence, donc qui est propre à l'essence close et fermée, et une énergie qui est issue de l'essence, ex dissocias, comme il dit. Donc, l'actualité, si vous voulez, de l'essence, et celle qui est issue de l'essence, qui va elle-même aboutir à une hypostase. Et c'est la théorie des hypostases, c'est-à-dire vous savez que chez Plotin, il y a plusieurs hypostases qui sont en fait plus ou moins des dégradations de l'hypostase première, qui est l'un. Donc, simplement, ici, on peut relever cette idée d'une double énergie. D'une énergie intérieure à l'essence et d'une énergie ectisuicias qui va vers l'hypostase, qui se concrétise sous la forme de l'hypostase. Et de nouveau, la deuxième hypostase de Plotin va avoir le même processus. Chez Jean Blic, on pourrait relever peut-être le fait que Jean Blic se situe plus dans un contexte donc païen. Jean Blic est païen et il distingue, il met en relation, si vous voulez, les notions d'essence, de puissance et d'énergie avec différentes catégories d'êtres surnaturels. Les dieux, les démons, qui sont des intermédiaires pour Jean Blic, les héros et les âmes immaculées. C'est-à-dire qu'il y a une gradation, il y a une espèce de gradation. les hommes eux-mêmes, et ça c'est intéressant, participent à l'énergie divine. La puissance divine ne devient pas la chose des participants, mais elle s'approprie ceux qui ont part à elle-même. Donc, les participants chez Jean Blic reçoivent bien d'une certaine façon l'énergie divine, agissent par elle, et non plus par leur propre énergie. Et il doit distinguer là aussi plusieurs modes, si vous voulez, d'action de l'énergie divine, ou bien le Dieu nous tient, ou bien nous devenons tout entier la chose de Dieu, ou bien nous recevons l'énergie avec lui. Donc, lorsque le Dieu nous tient, nous participons. C'est une participation, selon Jean Blic. Nous devenons tout entier la chose du Dieu, c'est une communion. Ou bien nous recevons l'énergie avec lui, alors c'est une union. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de participation pour le fidèle païen, encore une fois, à l'énergie divine. Et c'est une forme de possession pour Jean Blic. C'est une forme de possession divine. Cette énergie divine qui se manifeste dans le fidèle est appelée pneuma, que nous traduisons habituellement par esprit. Mais attention, pneuma peut signifier aussi un esprit. Un être, bon, qui est un esprit. Et est comparé au feu ou à une lumière. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette union à Dieu, selon Jean Blic, s'accomplit par l'énergie. C'est l'énergie divine qui se manifeste et non pas l'essence divine. Donc c'est une communion ou une union à Dieu par l'énergie divine et non pas par l'essence divine. Voilà, ça c'est déjà... Donc le terme énergie à ce moment-là prend un sens complètement différent. Vous voyez, déjà nous ne sommes plus du tout dans le cadre aristotélicien, où c'était la potentialité, la faculté de faire quelque chose qui se réalise, c'est plus ça du tout. Et donc, on s'éloigne beaucoup de la conception aristotélicienne, les pères vont s'en éloigner encore plus, et c'est pour ça que je trouve que finalement, Jean-Claude Larcher a raison, et on va voir pourquoi, de dire que la notion d'énergie n'est pas philosophique. C'est-à-dire, elle ne remonte pas à Aristote, mais elle remonte à l'interprétation qu'ont donné les pères à cette notion d'énergie, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier, évidemment, il n'est pas chrétien, mais enfin, celui qui a parlé de tout cela, c'est Philon d'Alexandrie. Philon, donc, c'est à peu près un contemporain du Christ, à peu près. 40 avant, 40 après. Philon va mettre en avant quelque chose de très important, qui va être repris après par tous les pères. Dieu est inconnaissable par essence. Ça, c'est ce qu'il va dire. Et n'est comparable à aucune chose créée. Il ne peut être désigné que négativement. Mais si son essence est incompréhensible, il se révèle par son action dans le monde. Soit dans le monde extérieur, dans la création, soit en nous, dans l'âme humaine. Et Philon emploie le terme de puissance. Il n'emploie pas le terme d'énergie, il emploie le terme de puissance, dynamis. Ce sont des puissances divines. Et il emploie aussi le sens d'énergie, mais là aussi, il privilégie le sens d'activité par rapport au sens d'actualité. Donc on voit, si vous voulez, qu'il y a deux sens autour du mot énergie. Un qui vient d'Aristote, qui est plutôt dans le sens de l'actualité, et un sens qui va évoluer à partir de ses successeurs, et qui est plutôt le sens d'activité. C'est-à-dire que l'énergie agit. Elle agit en particulier sur la personne. Donc on rencontre déjà cette idée qui va devenir une idée centrale chez les Cappadociens, c'est que Dieu est connaissable, inconnaissable dans son essence et connaissable dans ses énergies. Quel est le récit fondateur là-dessus ? Nous partons pas de la philosophie. Nous répugnons même de partir de la philosophie. Ce n'est pas... C'est ce que les pères appellent la pensée du dehors, Turatern. Mais nous partons de la révélation. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Eh bien, voilà, par exemple, un passage qui est très important, parce qu'il va être très très largement commenté, repris, interprété par les pères. C'est, vous savez, la révélation de Dieu au Sinaï. Moïse est sur la montagne et il dit à Dieu, il parle à Dieu. Il lui dit, fais-moi de grâce voir ta gloire. Donc je suis dans Exode 33, 18. Et Dieu lui répond, je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui fait grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Yahvé dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te recouvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis, j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Tu contempleras ce qui est derrière moi, quant à ma face, tu ne la verras pas. Tout ce qui vient après Dieu est saisissable pour l'homme de bien. Mais Dieu, en tant que tel, n'est pas visible, n'est pas saisissable. Et Philon désigne les puissances, puisqu'il emploie le terme de puissance, comme ce qui vient après Dieu, c'est-à-dire ce qui suit Dieu, ce qui est dans le sillage de Dieu, ce qui l'entoure, ou ce qui est entoure de lui, ou encore la gloire qui environne Dieu. Selon Philon, il y a un certain nombre de puissances, je ne vais pas vous les énumérer, ce n'est pas allonger inutilement les choses, et qui sont au nombre de cinq. Et ces cinq puissances constituent cinq éléments qui sont constitutifs de l'arche d'alliance. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, je vous rappelle, est présente dans la Bible. Lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, il y avait donc la tente qu'ils appelaient la tente de réunion, dans laquelle se trouvait l'arche d'alliance. Et on dit que la gloire de Dieu était présente entre les deux anges qui étaient représentés sur l'arche d'alliance. Les puissances divines se font connaître à travers la création. Cependant, nous ne connaissons que les empreintes de leurs activités, leur énergie. Leur essence nous sont incompréhensibles. C'est-à-dire que même, c'est un thème aussi qui sera repris par les pères, même pour les énergies, nous connaissons leurs activités, mais ce qu'elles sont elles-mêmes, leur origine, nous ne le savons pas. C'est par les puissances divines que l'âme peut remonter jusqu'à Dieu. Et c'est une sorte de hiérarchie que l'âme gravit en quelque sorte. D'abord l'interdiction du péché, l'obéissance à la loi, le repentir devant la miséricorde, la reconnaissance de la souveraineté, enfin l'amour pour celui qui a créé le monde. Pour Philon, la connaissance des puissances qui relève, elle, de la théologie affirmative, forme ce qu'il appelle les petits mystères. La connaissance de la ténèbre, qui relève, elle, de la théologie négative, forme ce qu'il appelle les grands mystères. Je passe sur le logos chez Philon parce que ce n'est pas dans notre sujet à proprement parler. Dans les Écritures, on trouve le mot énergie. Je parle bien sûr de la Bible qui était lue dans l'Église à l'époque, à savoir la Bible des Septante. On le trouve dans le deuxième et troisième livre des Maccabées. Et on le trouve aussi dans le livre de la sagesse, avec le sens d'opération, d'activité. Il désigne le caractère actif de l'âme donné par Dieu à l'homme en le créant. Le contexte suggère un potier qui façonne des idoles, dont le cœur n'est que cendre, et qui ignore celui qui l'a modelé, qui lui a insufflé une âme active. Psychin energousan, c'est-à-dire une âme pourvue d'une énergie, si vous voulez, une âme agissante, et inspirée un souffle vital. Cette notion d'activité se retrouve dans d'autres passages, et elle est attribuée par exemple par Salomon aux quatre éléments constitutifs du monde. Et si c'est la puissance et leur activité qui se manifeste aux hommes, la sagesse critique cette appréhension des païens, vint par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles, c'est-à-dire des énergies, des puissances, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Et c'est la puissance et leur activité qui les ont frappés d'admiration qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Donc là, nous avons et qui c'est la puissance dynamisme et leur activité énergia qui les ont frappés d'admiration, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Donc il y a un rapport analogique, si vous voulez, entre l'activité de certaines créatures et l'activité de Dieu. Dieu est présent dans la création et ses créatures participent de lui. Deuxièmement, il y a une possibilité de connaître l'activité de Dieu à partir de celle des créatures. Donc à ce moment-là, la notion d'énergie ne signifie plus non plus une pure activité, mais semble désigner des qualités visibles dans les créatures qui se trouvent en Dieu à un niveau éminent. Cette théologie, cette notion théologique de l'énergie se retrouve dans un célèbre passage qui décrit la sagesse en la présentant comme une effluve de la puissance du Dieu, tistoufé ou dynaméos, c'est de la puissance, dynamis, une pure irradiation de la gloire du Tout-Puissant, un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache, de l'énergie de Dieu, tistouté ou energias. On notera donc que la sagesse n'est pas une énergie, mais qu'elle est un miroir sans tache de l'énergie de Dieu. Et cette dernière expression est mise en parallèle avec reflet de lumière éternelle, image de la bonté, la lumière et la bonté apparaissant ici comme des formes de l'énergie divine. Dans le Nouveau Testament, nous avons bien sûr aussi cette notion qui est utilisée en particulier chez saint Paul. Par exemple, lorsqu'il parle des passions qui agissent en nous ou des vertus. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais la foi opérante, energomeni, par la charité. Galates 5, 6. Le mot énergie se retrouve dans un passage de l'Épître aux Éphésiens, en rapport avec la résurrection et l'ascension du Christ, attribué à l'énergie de la vigueur de la force de Dieu, témoignant de l'infinie grandeur de sa puissance. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, dynamis, se manifestant selon l'énergie, energia, de la vigueur de sa force, katat energia, tu kratus iskios aftu. Il l'a fait opérer, energikeken, en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. On trouve le mot energia qui est associé avec la notion de puissance. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en instruisant tout homme à toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait dans le Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant selon son énergie. L'énergie du Christ. Katat energiantu. Qui agit, donc l'énergie du Christ, agit avec puissance, en dynamie, en moi. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment la notion, c'est plus du tout la notion aristotélicienne, vous avez vraiment la notion d'une énergie divine qui agit en nous et qui nous transforme. Saint Paul qui raconte ça. Bon, il y a évidemment aussi une distinction entre la grâce et l'énergie, et distinguer de l'énergie ce symbole, qui apparaît plutôt comme une manifestation de celle-ci. J'ai été fait ministre des païens selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'énergie de sa puissance. Donc c'est l'énergie de sa puissance qui m'a donné le don de la grâce de Dieu. Catat energiam tis dynamis aptu, sens d'opération avec nuance d'efficacité. Autre notion aussi qui va revenir tout le temps chez les pères, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une énergie divine, mais qui se manifeste de multiples façons. Il y a une énergie de l'Esprit Saint, mais qui se manifeste dans le monde selon de multiples modes. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité des choses opérées, energimaton, mais le même Dieu qui opère energon, tout en tout. Les charismes sont présentés d'une façon dynamique du point de vue de leur rapport avec l'opération divine qui les produit et les communique. Donc, il y a diversité des charismes et unité du donateur qui ne se divise pas dans ses dons. C'est-à-dire que Dieu reste un tout en étant multiple dans ses dons. Multiplicité des dons de Dieu et unité de Dieu. Je passe un peu sur les pères du deuxième et troisième. J'arrive plutôt à un père important qui est Saint Athanase d'Alexandrie. Et lui aussi va reprendre souvent, mais pas uniquement, la notion de dynamis, de puissance. Il y a une distinction entre Dieu et ses puissances, dont la bonté et la providence. Dieu est présent dans le monde tout en restant transcendant. Dieu, existant en lui-même, contient toute chose et n'est contenu par aucune. D'une part, il est en toute chose par sa bonté et sa puissance. D'autre part, il est en dehors de tout par sa propre nature. Donc, si le Logos est présent dans le monde, c'est immédiatement et d'une façon dynamique par ses puissances. Présent en toute la création, il reste extérieur à tout par son essence, mais il est en tout pour par ses puissances. Ordonnant toute chose et développant partout vers toute chose sa providence, vivifiant un chacun et tous les êtres à la fois. Donc, un théologien, Georges Florovski, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant, on lit toujours avec intérêt, avec Saint Athanase d'Alexandrie, la distinction entre l'essence et les puissances acquiert un sens nouveau, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique plus à la relation entre le Père et le Logos, mais sert à établir une discrimination radicale entre l'être interne de Dieu, ce que Dieu est en soi, et sa manifestation créatrice et providentielle ad extra dans le monde créé. C'est une thèse qu'il va opposer aux Ariens. On s'est parfois demandé, une discussion qui couvre des siècles aussi. Si cette distinction essence-énergie était réelle ou formelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que la distinction que l'on fait entre l'essence et les énergies est une distinction qui a une réalité concrète entre d'une part une essence et d'autre part des énergies. Ou bien, est-ce que c'est une distinction qui est faite uniquement, quod ad nos, comme diraient les scolastiques, par rapport à nous? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule essence qui manifeste les énergies, mais ces énergies sont perçues individuellement, et donc, la distinction que l'on peut faire d'une séparation elle est selon l'intellect, katepinoyan, selon le concept. C'est ce qu'on va appeler en scolastique une distinction formelle. Eh bien non. Cette distinction est considérée par Athanase, saint Athanase, et par tous les pères, la plupart des pères, par la suite, est considérée comme distinction réelle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement distinction entre l'essence et les énergies divines, sans quoi d'ailleurs, dans sa lutte contre les Ariens, son argumentation aurait été détruite. Par ailleurs, saint Athanase insiste sur le fait que l'énergie divine n'est pas une énergie abstraite, c'est l'énergie de la Trinité. C'est-à-dire qu'elle vient du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Donc l'énergie est une énergie personnelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'il faut, pour bien comprendre, et ça sera la deuxième partie, si vous voulez, de ce séminaire. Je ne pense pas cette fois-ci, parce que nous n'aurons sans doute pas le temps, mais au moins la prochaine fois, c'est de restituer cette notion d'énergie divine dans son cadre trinitaire. Et ça me semble très important. Pourquoi ? Parce que on a souvent eu tendance à faire effilocher, si je puis m'exprimer ainsi, la pensée de saint Grégoire Palamas en termes purement philosophiques du genre essence, énergie, etc. Mais la façon correcte et juste de poser les problèmes, c'est de la poser suivant la révélation et dans le cadre de la Trinité, de la compréhension que l'on a de Dieu. C'est-à-dire que l'énergie en a de sens que dans un cadre trinitaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que saint Athanase va utiliser la notion d'énergie. Vous savez que nous sommes donc là, disons, entre le 3e et 4e siècle. Il y a un grand débat, qui n'est pas fini d'ailleurs, et qui va continuer par la suite, sur la divinité de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est-il Dieu ou pas ? Eh bien, saint Athanase va prendre le problème à l'inverse, et il va dire « L'Esprit, le Saint-Esprit, a la même énergie que le Père et le Fils, il a donc la même essence. Donc, il est Dieu. » L'énergie étant la manifestation de l'essence. C'est un argument, si vous voulez, théologique, important, qui va être pris par la suite par les pères. Donc, cela l'amène aussi à distinguer, ramène saint Athanase à distinguer entre ce qui relève de la théologie et ce qui relève de l'économie. La théologie, c'est ce qui se passe entre les personnes divines. L'économie, c'est ce qui se passe dans la création. Et saint Athanase va expliquer qu'il y a aussi une communication de l'énergie divine qui s'effectue à l'intérieur même de la Trinité, en même temps qu'elle s'accomplit à l'extérieur par le Fils dans le Saint-Esprit. Il est évident que c'est le Fils, n'est-ce pas, qui, par l'envoi de l'Esprit, est le le vecteur des énergies divines. Le Saint-Esprit nous transmet les énergies divines. Chez Saint Athanase, la notion d'énergie, ça c'est intéressant, dans l'histoire de la théologie, sert à poser les bases d'une argumentation en faveur de l'égalité et de l'unité des trois personnes de la Trinité, et qui sera développée par la suite par les Cappadociens. Je passe sur Didyme Lacvaux, il y aurait des choses intéressantes à dire, et j'en viens maintenant à un autre courant qui est assez important. Dans la spiritualité comme en théologie, vous avez en quelque sorte un double courant. Vous avez un courant qui vient, disons, plutôt d'Alexandrie ou des Cappadociens, et puis vous avez un autre courant qui est proprement syriaque ou syrien, et qui se manifeste en particulier dans les homélies de Macaire, ce qu'on appelle les homélies macariennes, et un grand saint qu'on appelle Diadoque de Phocicée. Ce courant va insister sur le fait que la grâce produit en l'âme, des dignes fruits avec puissance, sensation et pleine conscience. C'est-à-dire que il va insister sur la sensation vécue, en quelque sorte, de la présence de cette grâce. Cette pleine puissance, c'est ce qu'on appelle aussi la pyrophoria, qui est un terme un peu technique, qui veut dire aussi une proximité avec Dieu et en même temps une liberté de parole. Dans le renouvellement de l'intelligence, de la transformation et dans une création nouvelle. Donc l'énergie divine, non seulement est à l'origine de la création, mais elle est à l'origine du renouvellement de cette création en nous, qui est réalisé dans l'homme, à l'intérieur du cœur. Nous avons aussi, dans ce courant syriaque, une insistance sur le cœur par rapport au nous, par rapport préalablement. Et Saint Macaire, d'ailleurs, est assez fort, parce qu'il dit « Si quelqu'un n'a pas reçu la grâce, s'il n'a pas reçu le don du Saint-Esprit, autrement dit, s'il n'a pas reçu l'énergie divine, il est le jouet d'illusions, il reste étranger à l'Église céleste des premiers-nés, il n'a pas établi de communion avec les esprits des justes et des hommes parvenus à la perfection, il n'a pas été agrégé à la Jérusalem d'en haut. Celui en qui Dieu n'habite pas n'a même pas commencé à connaître Dieu. » Il est assez radical. « Tout l'effort et le labeur des pères et celui du Seigneur lui-même tendait à cela, que Dieu soit connu des hommes, c'est-à-dire qu'il fasse l'expérience de l'énergie divine. » Et ça, cette connaissance de Dieu qui se fait dans l'Église et par les sacrements. Le thème de la lumière divine occupe une place très importante chez Macaire. Elle est liée, c'est une expression, la lumière divine, c'est aussi une expression de la gloire divine. Ici-bas, elle n'a fait que l'homme intérieur, mais elle prépare et anticipe la spiritualisation eschatologique du corps. Et Macaire a vécu une expérience de transfiguration concernant non seulement l'âme, mais aussi le corps. Il est arrivé qu'un homme, dans la prière, étant comme entré en transe, se vit revêtu d'un habit lumineux. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il gravit la montagne avec Jean et Pierre, transforma son vêtement et le rendit éclatant. Tel était cet habit, et l'homme qui en était revêtu fut rempli d'étonnement et de stupéfaction. L'âme qui a été jugée digne de communier à l'esprit de sa lumière, qui est tout illuminée par la beauté de sa gloire ineffable, laquelle l'a préparé à devenir pour lui un trône et une demeure, cette âme devient tout entier lumière, tout entier visage et tout entier œil. Et bien sûr, je voudrais insister aussi sur le rôle du corps, si vous voulez. Il n'y a pas chez les pères, comme chez les philosophes, une séparation entre d'une part un intellect et d'autre part un corps. Non. L'intellect et le corps, ou le cœur, pour les Macaires, sont intimement liés. L'un agit sur l'autre, c'est une interréaction, si vous voulez. Et ce dont il est question, c'est de la divinisation de la personne tout entière. Et même, on a, par exemple, Saint Jean Damascène, en parlant de l'homme, dira « Je m'incline devant la matière qui a été pénétrée par les énergies divines. » J'en viens maintenant peut-être à celui qui est le plus important dans cette phase, je veux dire Basile de Césarée. Donc nous sommes au IVe siècle, 330-377. Chez Basile de Césarée, c'est surtout dans sa polémique contre Eunome que l'on va trouver donc beaucoup de choses concernant l'énergie et les relations essence-énergie. Eunome partait aussi d'une théorie du langage un peu bizarre, expliquant que le mot avait une relation essentielle avec la chose. Basile va rétablir un petit peu les choses en expliquant que non, le mot n'a pas une relation essentielle avec la chose, mais il désigne quand même quelque chose de réel, il répond à une réalité objective. Ce qui fait que nous pouvons quand même, par les mots, connaître Dieu en vérité ou en réalité. Les applications, deuxièmement, les appellations, appliquées à Dieu correspondent à des énergies. Ces énergies correspondent à des propriétés que l'on peut contempler ou considérer autour de lui. On a déjà vu d'ailleurs chez Philon d'Alexandrie, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Philon d'Alexandrie parlait des puissances qui sont autour de Dieu. Pourquoi est-ce que les pères emploient cette expression des énergies qui sont autour de l'essence? Parce que l'essence, de toute façon, reste toujours inconnaissable et au-delà de tout ce que l'esprit peut concevoir. Ce que nous pouvons concevoir, ce sont des énergies qui, bien qu'étant en relation avec l'essence, sont autour de l'essence. La multiplicité des énergies ne porte pas atteinte à l'unicité de leur substrat, c'est ce qu'on a déjà vu. Ces énergies sont considérées comme des activités de Dieu. Et là, nous sommes vraiment dans le sens patristique. C'est que vraiment, ces énergies donc, ne sont plus du tout, vous voyez le sens, la mise en œuvre d'une puissance, etc. Mais elles sont des activités de Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit, et ces énergies sont Dieu. Elles sont divines. Elles sont assimilées à la grâce qui nous vient de l'économie. Il y a donc assimilation de la grâce avec l'énergie, les énergies. Donc, définition simple, si vous voulez ici, les énergies divines sont définies comme ce que Dieu manifeste de lui. Cette manifestation est considérée au plan économique. Elle est distincte de l'essence. Ce sont pour Basile des qualités, par exemple la bonté, la sagesse, ou des propriétés divines. Ces qualités divines restent divines, quoique manifestées dans les créatures. Divines, présentes dans les créatures, elles ne sont pas, cependant, l'essence de Dieu. Manifestées dans les créatures, elles ne sont pas, cependant, créées. Elles sont incréées. Basile les appelle ici énergie, plutôt que qualité ou propriété, afin de montrer leur caractère actif. Par elles et en elles, Dieu agit et est activement présent dans ses créatures. Nous disons que le mot connaître a plusieurs sens, dit Basile. En effet, nous disons que nous connaissons la magnificence de Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa providence. Pour nous, nous nous disons que nous apprenons à connaître Dieu, à ses énergies, mais nous ne prétendons pas nous rapprocher de son essence elle-même. En effet, ces énergies descendent vers nous. Nous avons déjà vu ce mouvement de naissance, descente, mais son essence reste inaccessible. Donc, pour Basile, les énergies divines sont à la fois des activités, des attributs ou des qualités de Dieu. Autre élément intéressant, c'est ce que les pères, après Basile, appelleront le principe d'analogie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'énergie qui se manifeste est tout entière Dieu, mais elle va se manifester à la personne proportionnellement à l'aptitude des êtres à la recevoir. C'est ce qu'on appelle le principe d'analogie. Inaccessible par nature, on peut le comprendre pour sa bonté, remplissant tout de sa puissance. Il ne se communique qu'à ceux-là seuls qui en sont dignes, non pas suivant une mesure unique, mais en distribuant des énergies en proportion de la foi. Ces énergies qui se manifestent aux êtres créés dans le temps se manifestent aussi hors du temps. C'est-à-dire que antérieurement à l'existence de la création, l'énergie divine était là, antérieurement à la création et indépendamment d'elle. Quant aux énergies de l'esprit, qui sont-elles ? D'une inexprimable grandeur, elles sont multitudes innombrables. Comment concevoir ce qui est antérieur au siècle, dit saint Basile ? Quelles étaient ses activités avant que ne fût la créature pensante ? Comment, d'autre part, apprécier le nombre de ses bienfaits à l'égard des créatures, sa puissance dans les siècles à venir, car il était et il préexistait et il était avant les siècles avec le Père et le Fils. La gloire de Dieu est indépendante, pourrait-on dire, de la création. J'en arrive à un autre Père, qui a une très très grosse importance aussi, et qui aura aussi son importance sur Saint-Grégoire Palamas, je veux dire celui qu'on a appelé Denis l'Aéropagite. Donc, chez Denis l'Aéropagite, donc nous sommes ici fin cinquième, début du sixième, va utiliser un autre langage, celui des unions et celui des distinctions. Ce vocabulaire recouvre en partie la notion de théologie positive et de théologie négative. Parce qu'elle repose sur la distinction entre les réalités connaissables et les réalités inconnaissables par la raison et l'intellect de l'homme. Cette théorie va de pair donc avec la manifestation économique de Dieu dans le monde et de la remontée des créatures vers Dieu. Les Cappadociens avaient utilisé la notion d'énergie, energia, en la distinguant de la notion d'essence, ou sia en grec. Denis préfère utiliser la dyade, union, énosis, distinction, taklisis. En parlant à propos de distinction, de puissance, de procès, de manifestation. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une part, disons que les unions, c'est ce qui est du côté de l'essence, et que les distinctions, c'est ce qui est du côté des distinctions. Distinction des puissances, des procès, c'est-à-dire des sorties, si l'on veut, puisque le terme qui est employé peut avoir ce sens, ou de procession, et des manifestations, des rayons. Voilà, le rayon est aussi employé par Denis l'Aréopagite, des rayons de Dieu. Pour commencer par distinction claire, disons que l'on appelle distinction divine ces procès, donc ces sorties de la théarchie qui conviennent à sa bonté. Car en accordant libéralement à tous les êtres et en répandant sur eux les participations à la totalité de ses bienfaits, elle se distingue tout en restant une, elle se purifie dans son unicité. Dans le même chapitre, donc, Denis parle des réalités divines connaissables et des réalités divines inconnaissables. Cette notion, bon, ne recouvre pas tout à fait, il y a des nuances à faire avec les unions et les distinctions, car les unions comme les distinctions ont une dimension connaissable et une dimension inconnaissable. Par exemple, pour vous donner plus clair, au niveau de la Trinité, nous savons que le Père est Père. Et nous savons que le Père est inengendré. Donc, c'est une distinction. C'est une distinction, c'est un caractère personnel, ce qu'on va appeler aussi les caractères hypostatiques de la personne, du Père. Le Père est inengendré. Mais nous ignorons le mode de sa paternité. Donc, même dans le cadre de ces distinctions, il y a quelque chose d'inconnaissable. On pourrait dire la même chose du Fils. Nous savons que le Fils est engendré par le Père, mais nous ignorons le mode de cet engendrement. Nous savons que le Père fait procéder l'Esprit, mais nous ignorons le mode de cette procession. Etc., etc. C'est-à-dire que ces distinctions ont un aspect inconnaissable qui nous reste, qui nous échappe complètement. Les unions, pour Denis, cela désigne les propriétés, attributs ou qualités communs aux trois personnes de la Trinité, d'où leur nom d'union, qui sont relatifs à l'essence ou à la nature, ou comme le dit encore Denis, à la déité pleine et entière, totale et indivisée. Les distinctions désignent deux réalités différentes. D'une part, chaque personne divine, chaque hypostase, se distingue par des propriétés qui lui sont, qui la caractérisent. Ce qu'on appelle aussi des caractères de l'hypostase, ce qu'on appelle aussi des idiomes, c'est-à-dire que ce qui caractérise le Père, c'est justement d'être Père, c'est-à-dire d'engendrer le Fils et de faire procéder l'Esprit. Ça, c'est un caractère hypostatique. Il y a de nombreux caractères hypostatiques, et chaque personne divine a ses caractères hypostatiques propres. En revanche, les propriétés, attributs ou qualités communes aux trois personnes et appartenant à l'essence divine en tant qu'il rayonne de celle-ci se manifestent à partir d'elle et se communiquent aux créatures en se multipliant. Denis les appelle puissance. Donc là, nous sommes au niveau des distinctions en direction de l'économie. Procès ou procession, mot qui désigne l'action de sortir et de se montrer. Et il les compare avec des rayons. Donc les saints initiés de notre tradition théologique appellent distinction divine les procès et les manifestations qui conviennent à la bienfaisante théarchie. Ces distinctions sont des unions divines dans leurs manifestations économiques. Les réalités divines sont connaissables ou inconnaissables. Cette distinction ne recouvre pas exactement, comme on l'a vu, celle des unions et des distinctions, car les unes et les autres ont une dimension connaissable et une dimension inconnaissable. Les unions sont connaissables dans leur manifestation économique, ce que Denis appelle souvent des participations, si bien que Dieu peut être loué et nommé convenablement à partir de tout être. En revanche, elles sont inconnaissables dans leur source et leur fondement, qui se situent au-delà de tous les êtres ou essences. Il n'est en effet aucune réalité divine, autant qu'elle puisse nous apparaître, que nous ne connaissions à travers des participations. Ce qu'elles peuvent être en soi, dans la propriété de leurs principes et de leurs fondements, cela dépasse toute intelligence, toute essence et toute connaissance. C'est-à-dire que nous pouvons participer à des énergies divines, nous pouvons participer à ce que Denis appelle des distinctions, mais nous ne pouvons pas connaître leurs principes et leurs fondements. Si nous n'avons, par exemple, le secret suressentiel ou Dieu ou vie ou encore essence, lumière ou raison, notre intelligence en aucun cas ne saisit que des puissances qui descendent de Dieu vers nous pour nous déifier, nous essentialiser, nous vivifier, nous assagir. En aucun cas, nous pouvons vraiment savoir saisir la nature de ces puissances. C'est pour cela aussi que pour atteindre les réalités divines, il est nécessaire que nous nous fassions taire notre intellect et notre pensée en nous. Si nous voulons, c'est ce que Denis appelle l'agnosia, l'inconnaissance. Il faut se taire. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter d'avoir des opérations intellectuelles pour atteindre les réalités divines. C'est le dépassement de toute connaissance des essences créées et de leurs attributs, ainsi que de le refus de les associer à la connaissance de Dieu. C'est là que nous sommes dans ce qu'on appelle la théologie négative, que considérant Dieu comme non-être, non pas en tant que non-existant, ce qui serait une impiété, mais en tant que supérieur à l'être, en tant qu'au-delà de l'être. Ayant atteint cet état, l'homme recevra par révélation la connaissance suressentielle, mais cette connaissance surnaturelle est sans mesure avec la connaissance naturelle de l'homme. Et ça, si vous voulez, ce que Denis est en train d'expliquer là, c'est une constante de la notion de la prière hésychaste. C'est-à-dire, on trouve cela déjà dans les premiers siècles du christianisme, exprimé par exemple, je pense à Saint Jean Cassien, qui va expliquer qu'à un certain moment, le plus haut degré de la prière, c'est lorsque l'esprit sort de lui-même pour aller à la rencontre de Dieu. C'est au-delà de l'intellect. Parce que l'intellect créé ne peut en aucun cas rencontrer Dieu. Et donc il faut d'une certaine façon aller au-delà. C'est ce qu'il veut. On va dire aussi une extase, se tenir en dehors. Et c'est à ce moment-là, c'est ce que vont expliquer les pères du désert. Nous pouvons refaire, nous en reparlerons si vous voulez quand nous serons plus avancés dans le séminaire et nous parlerons de la spiritualité hésychaste. Tous les hésychastes, et ça, Palamas en premier, nous t'expliquer cela. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y a tout ce processus de purification de l'être humain, de préparation, de disposition à l'action de la grâce, il faut à ce moment-là que l'esprit sorte de lui-même pour rencontrer Dieu. C'est ce qu'on va appeler une inconnaissance. Ça correspond, si vous voulez, à ce que racontent les pères. Prenons Saint Grégoire de Nice, qui va raconter la montée de Moïse sur le Sinaï et sa rentrée dans la ténèbre, Gnophos. Et cette ténèbre n'est pas une ténèbre au sens d'une inconnaissance, au sens de négatif, mais c'est un mouvement de plus en plus accentué, c'est ce qu'il va appeler l'épectase, c'est-à-dire c'est un mouvement quasiment perpétuel de progression dans l'inconnaissance et de participation à Dieu. C'est-à-dire que la participation à Dieu suppose la connaissance. C'est le genre de phrase que le Père aime beaucoup pour faire comprendre, c'est une manière de faire comprendre en quelque sorte quelque chose qui dépasse notre façon de raisonner, notre façon de voir. Ils emploient souvent des termes contradictoires. Et l'esprit est totalement participable tout en étant absolument un. Voilà, c'est l'exemple typique de la manière de s'exprimer. Faire comprendre quelque chose, une réalité qui est vécue par ces moines, par ces ascètes dans le désert. Mais nous y reviendrons. Et à ce moment-là, évidemment, ce qui se passe, tout ça c'est un don. C'est-à-dire que ça ne relève en aucun cas des forces humaines ou de la volonté humaine. Mais ça relève au contraire de l'abstention de la volonté humaine, un dépassement de la volonté humaine. Et donc l'homme recevra par révélation la connaissance suressentielle, mais cette connaissance surnaturelle est sans commune mesure avec la connaissance naturelle. Bon, Dieu se multiplie sans être un, je crois qu'on l'a déjà suffisamment expliqué, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que si les distinctions, si vous voulez, relèvent de la multiplication, et si Dieu se multiplie sans être un, ça veut dire que les unions prévalent sur les distinctions. Ce qui relève de l'union, ce qui relève de l'essence, ce qui relève de l'unité prévaut sur ce qui relève de la multiplicité, parce qu'en aucun cas, cette union est épuisée ou est amoindrie par sa multiplication. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Dieu se multiplie, c'est-à-dire l'esprit se multiplie au travers des êtres humains, il s'adresse à tous les êtres humains, il se manifeste dans tous les êtres humains, mais il ne cesse pas d'être un. C'est-à-dire que la multiplication de l'esprit dans les êtres humains n'affaiblit pas l'unité de l'esprit. Donc les unions, l'unité prévaut en quelque sorte sur les distinctions. Il produit hors de lui une pluralité d'êtres tout en restant parfaitement égal à lui-même. Un dans sa multiplication unique, dans ses sorties, entier dans sa division, grâce à sa transcendance. Donc, deuxième aspect, si vous voulez, un autre aspect de ces distinctions, de ces multiplications, c'est ce qu'on appelle les noms divins. Ces noms nous sont révélés par la Bible. Tout ce que nous disons, toujours, est fondé sur l'Écriture. Les noms divins expriment les distinctions en Dieu telles qu'il se fait connaître. Ces distinctions communes et uniques au sein de la totale déité, ou si l'on préfère ces procès convenables à la bonté, ces manifestations convenables à la bonté, nous tâcherons maintenant, selon nos forces, de les célébrer d'après les noms divins que nous révèlent les Écritures, étant bien entendu d'avance, comme on l'a dit, que tout nom correspondant à un don de la bonté correspond à un don de la bonté divine. Certains sont plus fondamentaux, dirions-nous. Par exemple, bien, bonté, être, vie, sagesse, lumière, vérité, beauté, amour, raison, puissance, car ces noms désignent des attributs ou des qualités de Dieu qui déploient leur activité au sein de la création, correspondant à ce que des pères antérieurs ont appelé énergie divine dans le sens des dynamismes, des puissances. Ils sont inséparables de l'essence divine en laquelle ils ont leur fondement et leur puissance que désignent les noms divins possèdent, selon Denis, une certaine substantialité sans avoir d'existence indépendante qui se traduit par leur présence et leur existence objective dans les créatures. C'est ce qu'exprime la dénomination des puissances, ou du point de vue des êtres auxquels elles confèrent leur qualité, des participations. Si les noms divins correspondent à nos manières humaines de célébrer Dieu, c'est parce que ce Dieu est en soi dans la suressentialité de son essence, ineffable et innommable. Dieu en tant que tel se manifeste à nous, mais il est toujours au-delà, dans son essence, de ce que l'on peut en dire. Mais les noms divins correspondent à une réalité objective réelle en Dieu. Ils sont relatif uniquement par rapport à l'essence divine qui, en son unité, transcende toute distinction. Donc, l'intellect perçoit et connaît certaines réalités divines qui se manifestent et qui sont des puissances actives, produisant sur l'homme des effets objectifs, puisqu'elles l'essentialisent, l'assagissent, le vivifient et le déifient. Ce que nous affirmons, c'est que l'être en soi, la vie en soi, la déité en soi, constituent, si on les considère comme principes divins et producteurs, les fondements uniques et la cause essentielle de tout, et c'est trop peu de dire que de les appeler principes. Considérés du point de vue de la participation, il s'agit alors de puissances providentielles, don du Dieu imparticipable, essentialité en soi, vitalité en soi, déification en soi, et c'est en participant à ces puissances que chaque être, selon sa nature propre, donc c'est le principe d'analogie, chaque être reçoit selon ce qu'il est, selon sa capacité de contenance. Sur le double plan du langage et de la réalité, existence, vie, déification. Il faut donc que le bien constitue la substance de ces êtres fondamentaux, d'abord de leur ensemble, puis de leur partie, puis de leur... puis ensuite des êtres qui les participent totalement, afin de ceux qui n'y ont part que partiellement. Enfin, de ceux qui n'y ont part que partiellement. Donc les puissances, les procès, les manifestations correspondent à une manifestation de Dieu hors de lui-même, c'est-à-dire hors de son essence. Cette sortie de Dieu hors de lui-même est une sorte d'extase de Dieu en direction du monde qu'il a créé et son à laquelle il se tient lui-même en dehors de lui-même, sans pour autant cesser d'être lui-même et de demeurer en lui-même. C'est ce Dieu même dont l'amoureux désir à la fois beau et bon s'étend à la totalité des êtres par la surabondance de son amoureuse bonté, sort aussi de lui-même lorsqu'il exerce ses providences à l'égard de tous les êtres grâce à cette puissance extatique, suressentielle et indivisible qui lui appartient. Donc il y a en Dieu ce mouvement d'amour totalement libre où les énergies providentielles de Dieu s'exerce dans la continuité de son énergie créatrice également libre. Comme dit Saint Denis, le désir amoureux est extatique. Est idée que extaticos osios eros, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est extatique. En toute vérité, c'est par surabondance de bonté que la cause universelle désire amoureusement tout être, opère en chacun, faisant le bien en toutes choses. Cet amoureux désir, préexistant de façon surabondante au cœur même du bien, le met en branle pour qu'il agisse selon cette puissance surabondante d'universel engendrement. Cet engendrement étant au départ celui de la création, mais ensuite l'engendrement spirituel qui s'accomplit dans les êtres en suscitant leur propre désir amoureux. Et alors là, c'est le retour en quelque sorte. C'est que non seulement il y a un désir de Dieu qui s'exprime par la création et un engendrement spirituel dans les êtres, mais que cet engendrement spirituel de Dieu dans les êtres suscite de la part des êtres un amour pour Dieu, suscite en eux leur propre désir amoureux à l'imitation de cet amour divin pour eux. Il y a identité de Dieu et ses manifestations. Donc il y a une sorte de double, si vous voulez, double mode d'existence de Dieu. Dieu en tant qu'il est ce qu'il est en soi et Dieu dans ses manifestations. Donc Denis veut distinguer ces puissances participables de l'essence imparticipable, les qualifiant d'imitation, de similitude ou encore de participation pour souligner le fait qu'il ne s'identifie pas à elle. Pour Manzaridis, qui est un commentateur aussi de Saint-Gilles Palamas et là de Saint-Denis-l'Aréopagite, on pourrait tirer de ces faits que la grâce soit agréée. Il note que Denis l'Aréopagite la qualifie de divinité. Ce n'est donc pas celui qui est, qui provient de l'essence, mais l'essence qui provient de celui qui est. En d'autres termes, ce n'est pas l'essence en tant qu'abstraction, qui fait advenir celui qui est, mais c'est celui qui est qui fait advenir l'essence. En d'autres termes, c'est le Dieu personnel, c'est le Dieu qui se révèle dans la Bible. C'est Exode 3,14, « Ego, eimi, o, o, je suis », on traduit « celui qui est », c'est lui qui est le premier, le Dieu créateur. Et en général, on identifie l'aspect créateur de Dieu avec le Christ. Ça, c'est les pères qui l'expliqueront par la suite. Pour Loski, les dynamismes ou énergies de Denis ne sont pas des émanations amoindries de la nature divine. Denis insiste sur l'intégrité des processions divines à chaque degré des participations. Et là, nous avons, si vous voulez, une grosse différence avec tout ce qu'on peut appeler le néoplatonisme. C'est que dans le néoplatonisme, vous avez une dégradation à chaque fois de ces émanations, alors que là, il n'y en a pas. Et il note que le bien en soi, de sa propre initiative, et comme il convient à sa bonté, manifeste de manière stable ce rayonnement suressentiel qui demeure en lui, illuminant chaque créature proportionnellement à ses puissances respectives. Donc, ce qui fait que nous dissemblons quant à la réception de ces puissances divines, ce n'est pas la faute de la puissance divine, c'est lié au fait que nous sommes plus ou moins préparés à recevoir ces puissances divines. Ce n'est pas les fautes du sceau qui se transmet à chacun entier et identique, mais c'est l'altérité des participants qui fait dissembler les reproductions de l'unique modèle total et identique. Denis insiste beaucoup sur la lumière, qui joue un rôle essentiel dans le développement spirituel, au stade spirituel de l'illumination. Puis quand l'intellect continue à s'élever vers Dieu, Denis évoque les âmes qui tendent vers les rayons qui les illuminent et qui, dans un élan amoureux proportionné aux lumières qu'elles ont reçues, avec une prudence sacrée, prennent leur envol vers lui sagement. On appelle donc lumière intelligible ce bien qui est au-delà de toute lumière, car il est source de rayonnement et il répand le trop-plein de sa lumière sur toute intelligence. La lumière divine intervient directement donc à ce même sommet de la vie spirituelle dans le processus de l'union à Dieu et de la déification, lesquels s'accomplissent par la lumière et dans la lumière fait une importance pour les énergies divines. Quand ces intelligences unies à Dieu autant qu'il leur est possible sont devenues à l'imitation des anges conformes à Dieu, c'est lorsqu'elles ont renoncé à toute activité intellectuelle qu'advient en effet à ces âmes déifiées l'union à la lumière plus que divine, alors seulement elles savent dire que de cette lumière la louange la plus capitale, en renonçant à tous les êtres, elles reçoivent l'illumination véritable et sublime. En renonçant à tous les êtres, tout le créé, elles reçoivent l'illumination véritable et sublime, et elles la célèbrent comme cause de tout être, qui n'est elle-même aucun être, car elle transcende essentiellement toute créature. Quand nous serons devenus incorruptibles et immortels, et que nous aurons atteint un repos parfaitement bienheureux de ceux qui sont entièrement conformes au Christ, alors que nous disent l'Écriture, nous serons entièrement avec le Seigneur, c'est dans 1 Thessaloniciens 4:17, remplis d'une part de nos pures contemplations de sa manifestation visible qui nous illuminera de ses très brillantes vibrations, faisant de nous ses disciples dans cette très divine métamorphose. Nous serons alors égaux aux anges et fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Voilà, je crois que nous avons là vu l'essentiel, si l'on veut. Évidemment, celui qui va développer le plus en détail, mais je crois que nous avons vu l'essentiel, la notion d'énergie, c'est Maxime le Confesseur. Tout simplement parce que Maxime le Confesseur, donc nous sommes au 580-662, dans le 6e Concile œcuménique, la question va se poser de savoir est-ce qu'il y a une énergie divine ou deux énergies divines dans le Christ. Et donc, pour Maxime le Confesseur, il y a deux énergies, l'une étant l'énergie divine, l'autre étant l'énergie humaine, dans la mesure où chaque nature a une énergie. Et Maxime le Confesseur va développer la notion triade puissance, de la triade entre essence, puissance et énergie. Et l'essence, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'un être est en lui-même, c'est un universel concret. La puissance, c'est la capacité ou la faculté d'opérer. L'essence est ce qui a la puissance. Une essence a plusieurs puissances. Certaines puissances sont communes à plusieurs essences. Mais cela suppose qu'elles soient mises en activité. Et c'est l'activité, c'est l'énergia qui permet à la puissance de passer de l'état de capacité à celle de faculté. L'énergie est comme la puissance, une propriété de l'essence ou de la nature. La puissance n'a pas sa fin en elle, elle est pour une énergie, pros energia. Je ne vais pas trop développer, je vous renvoie au livre de Jean-Claude Larcher. Mais je crois que le dossier, vous voyez, sur la relation entre les essences et l'énergie est largement fourni. On pourrait citer aussi Saint Jean Damascène, qui va simplement, lui, reprendre en quelque sorte ce qu'ont dit les pères antérieurs en expliquant que l'énergie est le mouvement essentiel de la nature. C'est-à-dire, la nature a un mouvement qui est l'énergie. L'hypostase à la puissance, dont l'énergie est le mouvement, l'opération finale relève de la nature comme de l'hypostase, de la nature comme étant son origine et sa notion nature profonde, et de l'hypostase quant à sa qualité, c'est-à-dire le choix personnel de celui qui opère ou use de l'énergie. Intéressant chez Saint Jean Damascène, c'est son idée de la matière qui est pénétrée par les énergies divines. Je venais à la matière par qui est advenu mon salut, je la respecte et je me prosterne devant elle et je la vénère non pas comme un dieu, mais comme rempli d'énergie et de grâce. On voit à quel point cette notion, si vous voulez, est centrale. Et je voudrais dire que on ne peut pas dire de savoir pas la masse qu'il a développer quelque chose de différent de ce qu'ont dit les pères. Comme le faisait remarquer Vladimir Lossky, je le cite là dans un petit recueil qui s'appelle « À l'image et à la ressemblance de Dieu », à propos donc de la théologie de la lumière chez saint Grégoire Palamas, c'est page 59. Comme nous l'avons dit au début de cet exposé, il est très difficile de dégager la doctrine personnelle de saint Grégoire Palamas du patrimoine commun de l'Église orthodoxe, et ceci pour deux raisons. Premièrement, parce que la théologie orthodoxe est, en un sens, une œuvre commune, propre à tous les fils de l'Église, ancrée dans l'expérience de tous, à la mesure des facultés spirituelles de chacun. Deuxièmement, parce que le but même de l'œuvre de Palamas consistait en une expression dogmatique du fondement de la vie mystique propre à l'orthodoxie. C'est pourquoi les conséquences qu'on peut tirer de sa théologie mystique expriment le caractère foncier de la spiritualité orthodoxe. Et donc, il ne pourra faire que quelques remarques très brèves sur ce sujet. Ce que dit Palamas, c'est ce que disent les pères. Il avait simplement un don particulier, peut-être, un charisme particulier, qui était celui de la synthèse et de la clarification de la pensée. Maintenant, nous avons, je crois, suffisamment cette notion d'essence et d'énergie. Nous avons vu à quel point, quelle était son importance aussi dans la pensée patristique, mais je voudrais la restituer dans le cadre de la Trinité. Et ceci sera l'objet du prochain séminaire. Je vous remercie pour votre attention.